Deuxième vague de l'Empire, l'hyperconflit. La disparition du système soviétique et la généralisation de la démocratie semblent avoir éloigné la guerre. La course aux armements a cessé. Tous les pays paraissent avoir compris que la croissance économique leur rapporterait plus que la conquête. Jamais, en fait, l'ensemble du monde n'a été aussi pacifique, au moins en apparence. Il n'y a aujourd'hui aucune guerre entre deux pays pour la première fois depuis plus d'un siècle. Pourtant, comme à la fin de chaque forme, en même temps que se défont les États et que s'annonce l'hyper-empire, commence un nouvel avant-guerre. Quand le marché se généralise, les différences se nivellent. Chacun devient le rival de tous. Quand l'État s'affaiblit, disparaît la possibilité de canaliser la violence et de la maîtriser. Les conflits locaux se multiplient. Les identités se crispent. Les ambitions s'affrontent. Les vies n'ont plus de valeur. La disparition de l'Union soviétique a fait disparaître un des gendarmes du monde. Au-delà, l'échec annoncé de l'hyper-empire, la sophistication des armes et la multiplication des acteurs pourraient même, en convergeant, provoquer au sein de l'hyper-empire un conflit global, un embrasement planétaire, un hyper-conflit beaucoup plus destructeur que tous ceux, locaux ou mondiaux, qui l'auront précédé. En voici la genèse. Des ambitions régionales. D'ici à l'an 2025, avec l'avènement progressif d'un ordre polycentrique, de nouvelles puissances régionales surgiront, désirant toutes avoir accès aux mêmes richesses. Elles se doteront des moyens militaires de leurs ambitions. Parmi elles, on trouvera toutes celles qui domineront cette période et quelques autres, plus marginales et belliqueuses. Fascinée par la façon dont naissent et meurent les empires, la Chine, dont les dépenses militaires sont encore aujourd'hui particulièrement faibles, voudra redevenir une puissance majeure, y compris sur le plan stratégique. D'une façon ou d'une autre, elle cherchera à reconquérir Taïwan et à asseoir son hégémonie sur l'Asie de l'Est, comme les États-Unis le firent sur les Amériques au XIXe siècle. Elle essaiera d'en éloigner le Japon et les États-Unis. Elle s'appuiera sur la Corée du Sud, qui devra s'armer en conséquence, et laissera perdurer le régime totalitaire de Corée du Nord, qui voudra lui aussi se doter de nouveaux moyens, y compris nucléaires, de se défendre. Le Japon en viendra à se réarmer à son tour, afin de résister à une menace coréenne et à la montée de la puissance chinoise. L'Inde refusera de se laisser encercler par des forces musulmanes. Le Pakistan, même s'il ne devient pas islamiste, cherchera à se défendre contre l'Inde et à assurer son ascendant sur ses voisins, de l'Afghanistan au Cachemire. L'Indonésie tentera de se doter des moyens d'assurer la direction de l'islam dans son ensemble et de dominer l'Asie du Sud-Est. L'Australie elle-même souhaitera affirmer son influence sur la région et se protéger des visées de l'Indonésie. L'Iran chiite tentera de contrôler l'islam, aux grandes dames des sunnites à dominante arabe. L'ancienne Perse disposera pour ce faire d'une vaste population, de beaucoup d'argent et de pétrole, d'une position géostratégique. La Turquie refusera de lui abandonner le contrôle de l'ensemble turcophone. L'Arabie saoudite, vassale incertaine des États-Unis, essaiera de demeurer dominante dans sa région. L'Égypte aura toutes les raisons de se penser comme la plus grande puissance potentielle du monde arabe. Israël tentera de rester une puissance régionale afin de survivre. L'Algérie et le Maroc se disputeront la prééminence au Maghreb. Malgré des menaces de désarticulation, le Nigeria et le Congo, à la croissance démographique vertigineuse, voudront contrôler les régions qui les entourent. L'Afrique du Sud souhaitera dominer ses voisins pour ne pas rester enclavée. La Russie tentera de recouvrer un statut mondial et se considérera en première ligne face à l'islam et à la Chine. Pour se défendre contre ses voisins, elle se réarmera et tissera un réseau d'alliances militaires calqué sur son réseau de pipelines. En Europe occidentale, l'Allemagne et la France pourraient retrouver chacune une ambition régionale si l'Union européenne ne réussit plus à canaliser leur rivalité. Le Brésil entendra dominer l'hémisphère sud des Amériques. Le Venezuela s'efforcera de lui disputer ce rôle et de coaliser autour de lui les pays andins en vue de chasser les États-Unis de la région. Le Mexique et l'Argentine ne se laisseront pas marginaliser. Au Mexique en particulier, des révoltes politiques et sociales majeures viendront remettre en cause l'alliance avec les États-Unis pendant que le Canada tentera de rester neutre. Les exigences de la lutte contre les trafiquants de drogue, imposées par les États-Unis, exigeront aussi un renforcement majeur du potentiel militaire mexicain. Toutes ces ambitions régionales s'entrechoqueront. On verra une Amérique latine en révolte contre la présence économique et politique américaine. Un monde arabe rêvant d'éliminer Israël. Un ensemble perse désireux de bousculer le monde arabe. Une Russie désirant dominer à nouveau une partie de l'Europe et se protéger à la fois de la Chine et de l'islam. L'Inde et le Pakistan chercheront à écarter l'autre des pays limitrophes. La Chine et la Russie convoiteront les mêmes régions frontalières. Le Japon, les États-Unis, la Chine rivaliseront pour dominer l'Est de l'Asie. Se noueront des alliances militaires, associant parfois des partenaires improbables. L'Iran coopérera avec la Chine et la Russie. La Chine avec le Pakistan. La Russie avec l'Union européenne. Le Pakistan, l'Égypte, l'Indonésie et l'Iran pourraient s'unir en un ensemble musulman. Les petits pays du sud-est asiatique, regroupés dans l'ASEAN, s'uniront militairement pour échapper à la domination américaine, chinoise ou japonaise. L'Iran et le Venezuela chercheront des appuis russes et chinois. L'Union européenne se rapprochera militairement des États-Unis. La Russie se liera à l'Algérie et vend déjà des armements au Venezuela qui a demandé à entrer comme observateur à la Ligue arabe. Ces chocs d'ambition, d'abord sur les terrains diplomatiques et économiques, pourront aller jusqu'à des affrontements militaires entre États. Viendront s'y mêler de très anciennes forces, pirates et mercenaires. Armée pirate, armée corsaire. Les États n'ont jamais été les acteurs exclusifs de la violence du monde. Des mafias, des gangs, des mouvements terroristes, je les nomme ici pirates, se sont toujours immiscés entre les nations pour les combattre ou, à tout le moins, violer leurs lois. Quand la déconstruction affaiblira les États, que le droit et la police se feront plus discrets, la violence proliférera dans la vie publique et entre individus. Ces pirates deviendront même des agents essentiels de l'économie et de la géopolitique. Dès lors que s'achèvera la neuvième forme et que commencera l'hyper-empire, les pirates seront plus nombreux et plus puissants que jamais. Ils ne chercheront plus seulement à se faire une place au sein de l'hyper-empire. Ils ne se contenteront plus de profiter d'une guerre froide. Quelles que soient leurs motivations, criminelles ou politiques, n'ayant ni territoire, ni même famille à protéger, ils chercheront à asseoir leur pouvoir sur le monde. Plus l'hyper-empire se développera, plus ils seront puissants, sans qu'une police étatique ait les moyens de les combattre. Les pirates seront de plusieurs sortes. Certaines des nations qui se déféreront sous la pression des marchés et du jeu démocratique feront naître des entités pirates, zones floues de non-droit, état pirate ou non-état. Elles seront entre les mains de chefs de guerre à la tête de bandes surarmées, contrôlant des régions, des ports, des pipelines, des routes ou des matières premières. C'est déjà le cas de la Somalie, de la Transnistrie à la frontière entre Moldavie et Ukraine, d'une partie de l'Éthiopie, du Sri Lanka, de l'Afghanistan, du Pakistan, entre bien d'autres régions d'Afrique et d'Asie. Des villes grandies trop vite, on l'a vu, deviendront elles aussi des royaumes pirates où aucune armée, aucune police n'osera plus entrer. C'est déjà le cas, entre autres, de certaines agglomérations du Brésil, du Nigeria, du Congo, de la Colombie. Elles aussi se doteront d'armements de plus en plus sophistiqués. Des organisations mafieuses, des cartels, des criminels en col blanc, responsables de trafic de drogue, de femmes, d'armes ou de jeux, opérant sans base géographique, collecteront des fonds, menaçant et agissant comme des États et contre des États pour garantir leur sécurité. Ils se dotent déjà, des armes les plus sophistiquées. Ils menaceront juges, policiers et dirigeants politiques susceptibles de se mettre en travers de leur route. Parfois, comme c'est déjà le cas en Colombie, en Somalie, au Brésil ou au Pakistan, ces bandes contrôleront des villes, des territoires, voire des pays entiers. Des hypernomades, chimistes, intellectuels, comptables, ingénieurs, officiers, financiers, se mettront à leur service et participeront à leur côté à la déconstruction générale du monde. Des groupements politiques ou religieux, eux aussi sans assise territoriale, se doteront de tous les moyens militaires pour prendre le contrôle d'un pays, en chasser les occupants, y détruire l'ordre marchand. C'est par exemple le cas d'Al-Qaïda et des autres groupes nihilistes dans sa mouvance. D'autres formes pirates verront le jour. La prolifération de la violence et de la colère, rendue possible par l'installation de l'hyperempire, provoquera des audaces d'un genre nouveau. Des masses d'infranomades, n'ayant rien d'autre en commun que voyager ensemble, pourraient se révéler menaçantes. Tout comme les masses nomades qui franchirent le Rhin en 406, des foules pourraient traverser, les armes à la main, le détroit de Gibraltar, le fleuve Amour ou la rivière Usumacinta, menaçantes et non plus suppliantes. Certaines de ces forces se ligueront contre des États et en particulier contre des démocraties. On verra, on voit déjà, des barons de la drogue au service de causes politiques ou se servir d'immigrants comme passeurs. On verra, on voit déjà, des nations en ruine devenir les repères de mafieux. On verra, on voit déjà, des forces terroristes, par nature nomades, trouver refuge dans des non-États. On verra, on voit déjà, des organisations mafieuses soutenir des ambitions politiques, laïques ou religieuses, comme le fit la mafia, Cosa Nostra ou les gangsters français devenus collabos en 1940. On verra, on voit déjà, des violences urbaines si extrêmes qu'elles exigeront des réponses plus militaires que policières. Face à ces menaces ou agressions, les nations auront besoin de soldats et de policiers de plus en plus nombreux, capables de risquer leur vie. Or, les volontaires se feront de plus en plus rares, et les opinions publiques des démocraties de marché ne voudront plus de morts dans leurs armées, encore moins parmi les conscrits. Aujourd'hui déjà, seulement 0,5% de la population américaine est sous les armes, et chaque soldat tué est une tragédie nationale. Pour assurer les missions qu'il s'est données, l'Empire américain devra, comme jadis l'Empire romain, incorporer de plus en plus d'étrangers dans ses propres troupes. 5% des forces armées américaines sont déjà constituées d'immigrés non encore naturalisés. Leur nombre augmente considérablement depuis le décret du 4 juillet 2002 qui accélère la naturalisation des étrangers s'engageant dans l'armée. La copie presque à l'identique d'un décret de l'empereur Adrien remontant à l'an 138 de notre ère. Cela ne suffira pas non plus. Aux pirates, il faudra opposer des corsaires. Des entreprises de mercenariat se développeront, employant d'anciens militaires et seront utilisés comme sous-traitants des armées et des polices. En Afrique, il existe déjà une centaine de sociétés de ce type qui fournissent hommes et matériels à des gouvernements, à des entreprises, voire à des institutions internationales. Elles assureront bientôt des fonctions générales de sécurité, défense, protection, voire attaque. Des entreprises industrielles financeront légalement de tels mercenaires qu'elles mettront au service de gouvernements dont elles chercheront à obtenir des marchés. Certaines de ces sociétés de mercenaires seront utilisées pour restaurer la paix là où les unités d'interposition de l'ONU ou de l'OUA auront échoué, comme ce fut déjà le cas en Sierra Leone. Il arrivera à l'ONU de faire protéger ses propres bureaux par des mercenaires. Certains pays les utiliseront plus ou moins ouvertement pour mener une guerre au loin sans engager visiblement leurs propres forces pour lutter contre les trafiquants de toutes sortes. Parmi ces sociétés de mercenaires, certaines obéiront à un code de bonne conduite, leur imposant le respect des lois de la guerre, d'autres adhéreront aux conventions de Genève. La plupart, comme les gouvernements qu'ils serviront, ne respecteront plus aucune règle. La pratique de la torture en Irak et le sort fait aux prisonniers de Guantanamo en sont les signes précurseurs. La colère des laïcs. Puis montera partout la colère des peuples contre l'ordre marchand, et d'abord contre les États-Unis, qui le dirigeront encore pendant 20 ans au moins. Une colère laïque, rationnellement fondée. La haine à l'encontre d'un cœur ne se déchaîne pas quand celui-ci est au fait de sa puissance, mais quand il commence à décliner. Tel fut le destin de tous les cœurs antérieurs. Ce sera celui de l'Empire américain. Triomphante au moment de la chute du mur de Berlin, Washington est déjà devenue la principale cible d'une critique mettant en cause la globalisation et la démocratie de marché. Se nouera alors contre l'Amérique et l'ordre marchand une coalition critique regroupant tous ceux qui n'en attendent plus rien ou qui sont frustrés de ne pas en recevoir les bénéfices. Ils critiqueront pêle-mêle l'Amérique, l'Occident, la globalisation, la démocratie de marché et l'hyper-empire en devenir. Antimondialistes de tout poil, la plupart n'auront rien à proposer à la place. Leur critique porte déjà, sur le rôle envahissant des États-Unis d'Amérique qui monopolise l'essentiel des richesses du monde, en gaspille les ressources, en dérègle le climat, asservisse des peuples, prétendent les régenter à leur guise, violent beaucoup des règles de la démocratie qu'ils prétendent vouloir dicter aux autres. Ensuite, la critique portera sur les marchés. Elle sera d'autant plus facile que les faits établiront de plus en plus clairement qu'ils ne suppriment ni la pauvreté, ni le chômage, ni l'exploitation. Qu'ils concentrent tous les pouvoirs en quelques mains, précarisant des majorités de plus en plus nombreuses. Qu'ils détournent des exigences du long terme. Qu'ils concourent à dérégler le climat. Qu'ils créent des raretés et inventent de nouvelles gratuités pour en tirer profit ensuite. Que l'espérance et la qualité de la vie ne sont pas du tout les mêmes d'un endroit à l'autre du monde. Qu'ils deviendront, avec l'hypersurveillance et l'autosurveillance, une des formes les plus pernicieuses et les plus absolues de la dictature. Enfin, on reprochera au marché de libérer la violence en orientant tous les désirs vers la convoitise d'objets marchands, y compris celle des armes. Il sera alors facile de dénoncer aussi la démocratie comme une illusion, où les plus riches concentrent entre leurs mains les pouvoirs d'informer, de distraire, de savoir, de surveiller, de soigner, d'enseigner, d'orienter, de décider, d'accumuler. Ces nouveaux idéologues expliqueront que la démocratie parlementaire est, comme le marché, un leurre, l'instrument des forces armées et des grandes entreprises, qu'elle produit des inégalités, détruit la nature, sape les valeurs morales. Ils avanceront même qu'elle n'est qu'un prétexte commode invoqué par les Américains pour conserver leur pouvoir sans perdre leur âme, tout en fermant les yeux sur le développement de l'économie pirate, là où elle leur est utile. L'ordre marchand sera donc accusé, à juste titre, d'être pour beaucoup, et par sa nature même, une source de misère, d'injustice, de précarité, de désordre, de gaspillage, de bouleversements écologiques, d'immoralisme, de destruction des identités, de violation des règles religieuses, d'oppression. Beaucoup dénonceront aussi, tout ensemble, marché et démocratie comme des machines à fabriquer de la déloyauté, à annihiler toute forme de morale et d'organisation sociale, à détruire la liberté qu'elles prétendent promouvoir. Ils se plaindront de devoir aller vivre là où le marché a besoin de leur travail, d'avoir à quitter les lieux où plongent leurs racines, de ne pas disposer des moyens financiers de la liberté promise, de ne plus influer sur le monde par leur vote, d'être dominés, surveillés, auto-surveillés, auto-produits, d'être tenus d'obéir à des normes fixées par les exigences du profit. D'autres encore dénonceront le principe même d'une liberté individuelle qui conduit à n'être plus loyal qu'envers soi-même, à ne plus se sentir lié par une parole ou un contrat, mettant sans cesse aux enchères ses obédiences, ses sentiments, ses valeurs, sa foi, le sort des siens, toujours prêt à abandonner et s'attendant à tout moment à l'être, sans que soient jamais pris en considération les besoins des générations à venir. L'apologie de la dictature redeviendra un sujet de conversation respectable. Beaucoup, enfin, profiteront de l'affaiblissement progressif des États pour laisser s'épanouir leur pulsion de violence. Hors de toute contrainte, la première des libertés sera celle de tuer, gratuitement, sans but ni stratégie. Les villes où se retrouveront toutes les formes d'aliénation, toutes les preuves que la démocratie de marché n'est, pour l'immense majorité des humains, qu'une gigantesque escroquerie morale, deviendront les principaux lieux de la révolte. On y trouvera de plus en plus de criminels en série. On y assistera à une infinité de meurtres. À la différence des révolutionnaires communistes d'antan, qui avaient le projet de bâtir une autre société en lieu et place du capitalisme, ces nouveaux contestataires ne proposeront, pour la plupart, aucun système de substitution. Depuis que le communisme a échoué, aucune utopie ne semble plus disponible ni à la place du marché, ni à la place de la démocratie. Sauf pour quelques-uns qui proposeront le retour à la théocratie.